Chapitre 7. Il y avait ce matin un grand mouvement de conciliabules sur le carreau de la halle, non loin du Petit Paris. C'est que la semaine prochaine, on célébrerait la fête des jardiniers, les jardiniers maraîchers, dont les riants enclos entourent d'une luxuriante ceinture de fleurs, de fruits et de légumes, la ville d'Usclas. Qu'imaginerait-on cette année pour en rehausser l'éclat? Les jardiniers, mi-citadins, mi-terriens, amis de l'ordre et de l'économie, sont tous pourvus d'une réelle aisance, ce qui ne les empêche pas de trimer de l'aurore au soir, sous le soleil ou à l'ombre de leurs petits arbres. Le matin, dans leur parlotte, au milieu des corbeilles vides, quelques-uns avaient émis des idées plus ou moins ingénieuses, lorsqu'une jardinière, jeune et hardie, prit la parole. « Écoutez, jamais nous n'avons eu le poulain !» « Tef, fit un vieux, c'est vrai. Seulement, la sortie du poulain coûte cher. Il y a des combinaisons. » Et tout bas, la jardinière ajouta « Ne pourrait-on pas s'entendre avec ce lagrifoule qui cherche toujours un moyen de faire parler de lui et de son magasin ?»« Compris, fit le vieux, l'idée est excellente, nous y penserons. Oui, n'est-ce pas, vous tous? Pour aujourd'hui, salut !» Les groupes de camarades se dispersèrent, sans bruit, vers les corbeilles ou les charrettes, en riant sous cape, dans un mystère qui intrigua les ménagères occupées à leurs emplettes. Mais dans ce Languedoc, la lumière est si limpide que la moindre parole prononcée dans la rue se répercute au loin en longs échos. Ainsi, midi n'était pas encore sonné que le grand secret des jardins parvenait aux oreilles d'Hélène. Elle frissonna de la crainte que cette invention du poulain n'eût trop de chances de plaire à son original de mari. Alors, sans tergiverser une seconde, elle laissa les clients du magasin aux soins de sa vendeuse et monta jusqu'à l'atelier où il était en train de peindre. Elle entra d'un pas doucereux, belle de l'éclat de ses 30 ans, que le soleil d'automne dorait comme un fruit. « Te voilà !» s'écria la Griffoule. « Je finis justement de peindre le grand jour. Comment le trouves-tu ? » Très ressemblant. Oui, c'est bien ça. La terrasse, les grenadiers, la treille et ses muscats, les lézards verts. Ma foi, c'est très joli. Je crois que je suis en progrès, murmura-t-il en penchant la tête à droite, puis à gauche, pour mieux juger de son œuvre. Hélène s'était assise dans un fauteuil auprès de lui et, époussetant sans besoin le genou de sa robe, elle insinua, comme sans y attacher de l'importance, « Les jardiniers ont, paraît-il, l'intention de s'adresser à toi pour l'organisation de leur fête. Ils ont même une idée assez baroque. »« Ah ah ! Quelle idée ! Faire sortir le poulain, et ils veulent que tu t'occupes de cette espèce de farandole. »« Mais, sapristi, l'idée n'est pas si baroque. »« Voyons, la Griffoule, tu n'as rien de commun avec les jardiniers. » « En tout cas, je te demande, moi, de laisser ce poulain en repos. »« Mon Dieu, tu as toujours peur. Au contraire, nous devons mettre de l'animation dans le pays. Tu vois qu'on ne peut plus se passer de moi. Si je refuse mon concours, ce sera tant pis pour notre magasin. »« Erreur, on te chargera de tous les frais de cette farandole sans aucun profit. Et puis, ça ne s'est jamais fait. » Voilà, par exemple, l'objection d'un esprit rétrograde. Tant de choses ne se sont jamais faites dans le passé qui se font de plus en plus. D'abord, c'est Forné qui fumerait de jalousie. Lui, il rirait plus fort que les autres. Hélène s'inclinait vers son mari avec des manières de supplication tendre. Il n'osa plus rejamber contre sa volonté. Après un silence confus, il l'embrassa d'un baiser délicat sans qu'elle se refusât à la caresse, ainsi qu'elle faisait souvent. « Ne t'inquiète pas, Hélène, nous verrons. »« C'est tout vu, je ne veux pas que tu sois la risée du monde. » Elle quitta son fauteuil d'un mouvement câlin et, pour conquérir la Griffoule tout à fait, elle l'accabla de nouveaux éloges pour son tableau, si bien qu'il ne songea plus qu'à sa peinture. L'après-midi, au rez-de-chaussée du magasin, il mesurait gravement des étoffes, tandis qu'à l'autre bout du comptoir, Hélène dépliait pour une cliente des layettes de bébé, lorsque deux maîtres jardiniers, costumés en beau dimanche, se présentèrent. Hélène, qui comprit aussitôt l'intention de leur visite, épia son mari avec une autorité menaçante. Pourtant, celui-ci, flatté dans son orgueil, lâcha ses étoffes et accourut au-devant de ses solliciteurs. C'étaient Bringuier et Carrière, tous les deux ayant, pendant quelques années, après leurs études au collège, gardé un aspect de bourgeois citadins, mais repris tous les deux par les griffes de la terre, sous le soleil qui leur avait rôti la peau, en compagnie de la pioche et de la charrue, qui avaient durci leurs mains comme des pâtes. Bringuier, poli, modeste, se taisait volontiers dans l'appréhension de mêler aux Français des mots de patois. Carrière, lui, figure de guignol hardi et narquois, qui, dans son rire, montrait de grosses dents de loup, eût voulu parler continuellement. Son chapeau noir à la main, il dit à la Griffoule : Nous vous demandons, cher monsieur, une minute d'entretien pour vous expliquer quelque chose. Ça va, tais, montons chez moi. La Griffoule, sans prêter attention à Hélène, qui, de dépit, haussa les épaules, frétillait de plaisir. Et de ses courtes jambes, il escalada lestement jusqu'à son atelier. Une fois que ses visiteurs se furent installés dans les fauteuils d'osier, la porte close, Carrière prit la parole. Ce fut un véritable discours, prononcé d'un ton doctoral. « Donc, conclut-il, nous avons pensé à vous, monsieur, pour nous aider à associer le poulain à notre fête cette année. Car vous ne reculez pas, tout le monde le sait, devant les manifestations qui sont susceptibles de contribuer à la prospérité de notre cher pays. » « Sans doute, répondit la Griffoule, mais là-dedans, je n'aperçois pas quel sera mon bénéfice personnel. Et puis, pour quel motif me joindre à votre fête? Je n'ai pas l'honneur d'être jardinier. » « Tais, par exemple, on suspendrait au flanc du poulain une bande de calicot portant votre nom et l'enseigne du Petit Paris. Ce sera une publicité appréciable. » La Griffoule, le front entre les mains, réfléchit un moment. « Une telle manifestation représente évidemment pour moi des avantages. Mais combien me coûtera-t-elle à peu près ?»« D'abord, on vous promet la clientèle de tous les jardins. » »« Pardi, j'y compte. » Ah, si vous saviez, j'ai tant de frais dans cette grande maison. Enfin, je ne suis pas seule, il y a Madame la Griffoule. Eh, les femmes qui sont très attachées à la tradition n'admettent pas tout de suite les idées neuves. Oh, ça coûtera peut-être 1 000 000 francs. Bigre, ne le dites pas hors d'ici, ma femme me ferait une scène. Carrière éclata de rire. Bringuier, timide, souriait gentiment. Ah, mes amis, ce n'est pas toujours drôle dans un ménage, vous le savez bien. N'importe, je vous rendrai ma réponse dans 4 ou 5 jours. 4 ou 5 jours? Bien, monsieur la Griffoule. Les jardiniers se levèrent, lourdeaux, exhalant une odeur de fleurs et de légumes. Carrière, qui prétendait lui aussi être un artiste, mais en décoration de plantes, admira quelques figurines en plâtre que la Griffoule avait essayé de pétrir, ensuite des tableaux à demi ébauchés et la toile en train sur le chevalet. « Vous êtes un vrai peintre, monsieur la Griffoule, sans vous flatter. C'est beau tout ce travail. Et ce paysage, qu'est-ce que c'est ?»« Mon grand jour de la Roussanienque. » »« En effet, j'aurais dû le deviner. Qu'en dis-tu, Bringuier ?» C'est magnifique. La Griffoule buvait du lait, le brave homme, et de ses doigts soigneux, il lissait les poils noirs de sa barbe pointue. Entendu, monsieur, dans 4 ou 5 jours. Au revoir. Au revoir, messieurs, je ne vous accompagne pas, la vue de mes tableaux m'a inspiré le désir de les travailler encore. Excusez-moi. Oui, oui, merci de votre accueil. Le bruit se répandit rapidement en ville que la Griffoule paierait, pour la fête des jardiniers, la sortie du poulain. Ce fut partout une explosion d'hilarité. D'autre part, si l'on se réjouit du spectacle de carnaval qu'il acceptait d'offrir à la population, on plaignit sa femme, sa vieille mère, ses beaux-parents qui tenaient si jalousement à leur tranquillité. M. Fornet se frottait les mains de satisfaction au moins devant le monde. Car, après tout, son commerce périclité ne fût-ce qu'à peine au profit du Petit Paris. Les gens n'étaient-ils pas assez niais pour acheter maintenant chez ce toquet de la Griffoule qui n'employait ses bénéfices qu'au bouleversement des coutumes du pays? Alors, mon Dieu, qu'inventerait d'assez prestigieux M. Fornet pour lutter efficacement contre le Petit Paris? M. Fornet reconnaissait sans embâge qu'il manquait d'imagination, sa femme Brigitte encore plus, et qu'ils étaient trop vieux pour s'échapper de leur routine. Néanmoins, un matin qu'il se trouvait seul dans la boutique, M. Fornet proposa d'y mettre de l'ordre. Nos cartons s'entassent ici pêle-mêle comme dans un bric-à-brac. Il n'y aura bientôt plus de place pour les clients.
« On pourrait repeindre la façade, » dit Madame Fornet. « Depuis plus de 20 ans, elle en a besoin. »
« On peut toujours commencer par là. J'irai demain chez Vignal. » Le lendemain, Vignal, un artiste encore, grand, beau, avec sa barbe luisante et ses yeux noirs, arriva lentement, la cigarette aux lèvres. Pour plaire au Fornet, il médite odieusement de ce gredin de la Griffoule, lequel d'abord ne lui avait pas donné la pratique, et tout en mesurant du regard la muraille des Fornets, à l'extrémité de la rue Saint-Roch, il se confondit en bavardage. « Allons, monsieur Fornet, on vous fera quelque chose de chic qui tire l'œil des moins connaisseurs, et rira bien qui rira le dernier. D'ailleurs, savez-vous que...
Eh bien, parle !»
Vignal épia tout alentour si personne ne survenait. Il ajouta sourdement « Vous savez que c'est la banque Gauzy qui détient la fortune de Maman la Griffoule. Sans cette fortune, le petit Paris tomberait par terre. Alors ?»
Alors,
la banque n'est pas solide.
Bah, on l'a dit si souvent.
Oui, mais cette fois, on m'a mise au courant, moi.
Qui te renseigne, farceur?
C'est un secret qui ne m'appartient pas.
Ne soyez pas incrédule, monsieur Fornet, comme Madame la Griffoule qui n'écoute aucun conseil.
Si je compte là-dessus pour démolir mon concurrent, j'attendrai longtemps. Revenons aux choses sérieuses. Je veux que tu te mettes à l'œuvre sans retard.
Non, demain, j'ai besoin de réfléchir, de tirer des plans. »
Vignal, d'un geste large, embrassait la boutique, toute la maison, comme pour y jeter des gerbes de lumière.
« Demain, monsieur Fornet, je serai à mon poste de combat. Seulement, il faudra que vous débarrassiez la boutique de ces marchandises. Vous les rangerez dehors. »«
Dehors? Tu es toqué, puisqu'il s'agit de peindre la façade. »
Oui, en effet, il semble que vous avez raison.
Allons, à demain. »
Vignal, au lieu de rentrer chez lui dans sa petite boutique de la rue Saint-Jean, là, tout proche, s'en alla faire un tour de promenade en ville. Devant la vitrine du Petit Paris, il s'arrêta par simple curiosité. La vente, ce matin, y subissait un moment d'accalmie. Or, Vignal aperçut, au fond du magasin, Madame la Griffoule, qui, accoudée sur le comptoir, les yeux fixes, songeait. Comme Vignal n'aimait pas la tristesse sur les choses ou sur les êtres, il fit une pirouette et s'éloigna. Madame la Griffoule songeait, une fois de plus, aux imprudences, dangereuses peut-être, de son mari. Celui-ci, qui descendait en fin de l'atelier, où depuis une heure il maniait le pinceau, s'étonna de la voir seule et maussade.
« Qu'as-tu, Hélène ?»«
Je ne suis pas contente. »«
Quoi ? Chaque jour, nous avons des tas de clients, de l'argent qui entre, et tu n'es pas contente ?»«
Je sens qu'un malheur nous menace. Oui, pendant que tu t'amuses, le monde se moque de toi. »«
Merci. Ah, les femmes, vous ne comprenez rien. D'ailleurs, toi, tu es d'une famille qui se complaît dans la médiocrité. »«
Médiocrité heureuse. » « Oh, mon chéri, si tu es raisonnable, tu te dégageras de ta promesse au jardinier. »«
Non, je veux faire ton bonheur malgré toi. Assez causé, voici des clients. »
L'après-midi, dans le magasin encore, la discussion recommença.
« Oh !» s'écria la Griffoule, « tu n'es vraiment pas gaie, Hélène. Tais, je m'en vais. »
Tandis qu'entrait un flot de terriens de la banlieue, il prit les clés du grand jeu et partit. Dans le magasin, les bavardages de la clientèle, l'agrément d'encaisser de l'argent, remirent malgré tout Hélène en bonne humeur. Jusqu'au soir, elle ne resta pas inactive une minute, ne fût-ce que pour dissiper tout souci. Quand elle eut fermé le magasin, à 7 heures, elle monta dans son appartement, tout droit gagna la cuisine, où elle allait chaque soir donner un coup d'œil à son ménage. Bientôt, les minutes lui parurent lentes, lourdes. Pourquoi la Griffoule ne rentrait-il pas ? À cause de ses fantaisies parfois inexplicables, elle avait certes trop de raisons de redouter quelque malheur. La bonne, Ursule, une montagnarde dévouée, qui savait à peine lire, mais qui sentait à merveille la souffrance des âmes, s'efforçait en vain de la rassurer.
« Madame, mettez-vous à table, ça fera venir monsieur. »«
Non, je n'ai pas faim. »«
Ne vous désolez pas, madame, ça ne sert à rien. »«
Vous, Ursule, soupez. »
« Non, madame, pas avant vous. »« Comme vous voudrez. »
Il était plus de 9 heures. On n'entendait rien du dehors, on n'y voyait rien que, de temps à autre, la silhouette emmitouflée de M. Fornet et de ses camarades qui, se promenant de leurs pas mécaniques, apparaissaient un moment au seuil de la halle. Hélène se résigna cependant à souper, dans quelle anxiété, mon Dieu! À chaque instant, elle consultait la pendule sans prononcer un mot. À la fin du repas, elle dit, le front baissé, « Sûrement, il lui est arrivé quelque chose. Peut-être a-t-il rencontré un ami qui l'aura entraîné. Oh, madame, monsieur n'est pas un enfant. Si, Ursule, un enfant innocent, trop bon, crédule.
Oui, madame, mais il n'y a pas de mauvaises gens dans le pays. »
Comme Hélène ne répondait plus, Ursule s'en retourna à la cuisine. Au bout d'une demi-heure, ayant terminé son ouvrage, elle retrouva sa maîtresse assise à table, le visage entre les mains.
« Alors, madame ?»«
Allez-vous coucher, Ursule ?»«
Non, madame, je ne veux pas vous laisser seule, je ne pourrai pas dormir. »
Hélène insista si fort qu'Ursule consentit à regagner sa chambre, non sans avoir répété
« Au moins, madame, si vous avez besoin de moi, ne craignez pas de m'appeler. »«
Oui, ma fille. » Hélène se réfugia au salon, de l'autre côté du couloir. Là, se reposant dans un fauteuil, elle ferma les yeux. Au milieu du silence qui lui semblait hostile, le moindre bruit, un pas sur le carreau de la halle, un frôlement d'ailes sous le larmier du toit, la faisait tressaillir. Elle souffrait dans son cœur et dans sa chair le supplice de l'impuissance, tandis que le cauchemar déroulait devant sa pensée les plus affreuses images. Quand les coups de minuit sonnèrent dans le clocher perdu sous les étoiles, elle n'y tint plus d'impatience. Elle s'enveloppa d'un manteau et, résolue à solliciter le secours de ses parents, elle descendit d'une allure confuse l'escalier à colimaçon dans le recueillement du magasin qui exhalait une forte odeur de linge et de tapis. Au rez-de-chaussée, elle ouvrit d'une main tremblante, hésita sur le seuil une seconde dans le noir de la nuit, car maintenant, les lampes électriques étaient éteintes aux angles des rues. Serrée dans le manteau, elle partit d'un élan. Soudain, elle heurta un homme de haute taille, dont elle n'avait, en son désarroi, entendu le pas. Elle poussa un cri.
« Mon Dieu, qui va là ?»«
Mais qui êtes-vous » maugréa l'homme.
« Madame la Griffoule. »
« Où allez-vous donc? Je suis le docteur Alain Gris. »
« Oh, Dieu soit loué qui m'a mise sur votre chemin. Peut-être pourrez-vous me renseigner au sujet de mon mari qui n'est pas encore rentré. »
« En effet, madame, remerciez la Providence. Je sors du cercle où j'ai laissé votre mari. »
« Et qui fait-il ?»«
Écoutez, madame, je vous conseille de rentrer tranquillement chez vous sans alarmer qui que ce soit. Au cercle, il ne reste plus que quelques amis. La Griffoule ne tardera plus à vous revenir. »
« Merci, docteur, j'imaginais tant de choses. Mais où aura-t-il soupé ?»«
Madame, il n'est pas prudent que vous soyez là, exposée au froid. Suivez-moi. » Hélène obéit docilement. Avec quelque pitié, le docteur la vit disparaître dans son magasin, pauvre femme, à qui la Griffoule ne pensait guère à cette heure. La Griffoule, ressaisie dans l'isolement de son grand jeu par le goût de l'alcool, avait vidé, même petit verre, des liqueurs qui renferment toujours un placard. Le soir, sur le chemin du retour à la ville, il ressentit par moments un léger vertige. Il eut honte de se présenter chez lui et il soupa, malgré son malaise, à l'hôtel. Ensuite, il monta au cercle. Il y continua de boire et, dans son trouble, il chercha querelle à des amis qui se moquaient des farandoles de son poulain pour jardinier. Finalement, dans un accès de colère, excité par le feu de ses libations, il détruisit à coups de canne 2 candélabres et déchira le tapis vert d'une table de jeu. Alors, ses amis l'avaient abandonné. Maintenant, le garçon du cercle lui offrait, par charité, de l'accompagner jusqu'à la halle. Il était 3 heures. La Griffoule, consciente de sa faute, n'osait pas reparaître chez lui, devant son Hélène, si confiante et si pure. Pourtant, l'heure pressait. Il préféra s'en aller seul. Et, brûlant de dégoût, il s'achemina cahin cahin par la grande place des Eaux-de-Vie, dans la fraîcheur croissante de l'ombre moins épaisse qui le faisait grelotter. Seul, dans le silence profond de la ville, il levait à peine les yeux sur les murs familiers, qui pâlissait déjà des reflets du ciel, resplendissant encore d'étoiles.
Quand il contourna l'angle de la pharmacie Azéma, il eut un frémissement de crainte, et combien davantage quand il introduisit, non sans difficulté, sa clé dans la serrure de la porte chez lui. Comme s'il pouvait, par des gestes de discrétion, ne rien trahir de son ignominie, il monta l'escalier lentement, avec beaucoup de précaution. Au deuxième étage, tandis que, pour aboutir à sa chambre, dans l'hallucinante obscurité, il longeait le couloir en s'appuyant à la cloison, un cri d'épouvante retentit.
« Qui est là ?»
Hélène, ayant perçu le frôlement d'un pas sournois le long du couloir, s'était réveillée en sursaut, dans le fauteuil où elle dormait depuis 2 heures. Elle se redressa à garde.
« Qui est là ?»
La Griffoul éprouva une telle émotion qu'il lui fut impossible d'avancer. Il répondit d'une voix sourde, humblement,
« C'est Fornet qui sera content. Je suis ici. Ah, que j'ai souffert !»
Elle fit de la lumière. Il entra, penaud, le front mouillé de sueur. Elle le toisa des pieds à la tête, comme s'il sortait d'un ruisseau de fange.
« D'où viens-tu ? Dans cet état ? C'est ainsi que tu donnes à ton pays le bon exemple ? C'est vrai, accable-moi de reproches, tu en as le droit. Personne désormais ne croira plus en la Griffoul. D'où viens-tu ? Si tu savais, après tout, ce n'est pas ma faute. La faute de qui ? Écoute un moment. J'étais seule au grand jour, je m'ennuyais sans toi. J'ai pris quelques gouttes de liqueur, et puis, de petit verre en petit verre, je me suis sottement grisée. Je suis rentrée tard en ville, j'ai eu honte de revenir ici. Je suis allée à l'hôtel, au cercle. Ah, laisse-moi m'asseoir. Plains-moi, Hélène. »
Il s'assit dans le fauteuil qu'Hélène occupait tout à l'heure. Il était pâle, les cheveux en désordre, la barbe parsemée de gouttelettes qu'il n'essuyait plus. Hélène, debout, l'observait avec une moue de mépris que dissipait parfois un sentiment de compassion. « Alors, dit-elle, tu as passé la nuit dans cette espèce de cercle où l'on joue tout le temps ?»«
Je n'ai pas joué. » « C'est au moins quelque chose. Mais moi, seule ici, tu n'as pas pensé que je me morfondais d'inquiétude ?»«
Tu avais tort, Hélène. »«
En effet, est-ce que tu en vaux la peine ?»
À ces mots, il leva la tête, regarda fixement sa femme, qui était plus belle encore sous l'étreinte de la douleur. Les mains au visage, il sanglota comme un enfant.
« Excuse-moi, Hélène, je n'y reviendrai plus, je te le jure. »« J'y compte bien. » « Oui, Hélène. Quelle heure est-il ? » ?»« Bientôt 5 heures. Va te coucher. Tu auras encore le temps de te reposer. »
Il s'éloigna aussitôt, courbé par la fatigue, résigné à son humiliation, n'ayant dans la pénombre de sa conscience que le chagrin de décevoir l'honnête et bonne Hélène. Enfin, chez elle, la compassion fut la plus forte. Même, tandis qu'elle le bordait dans son lit, elle eut la charité de lui dire des consolations.
« Alors, Hélène, tu ne m'en voudras pas ?»«
Non, à la condition que tu ne commettes plus d'indignité pareille. » »«
Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu la commettre. Ce qui me tracasse à présent, c'est le bruit que tout cela va soulever en ville. »« Hélas, il faut s'y attendre. » »« C'est Fornet qui sera content. » »«
Sans doute, mais tout passe, tout s'arrange. Dors. » »«
Et toi ?»
« Non, si je m'endormais, il me serait impossible de me réveiller. Je veux être là pour ouvrir le magasin, à son heure, et peut-être recevoir le premier assaut des médisances. »«
Je t'aime bien, Hélène. Je te demande encore pardon. »
Il lui baisa les mains jalousement. Quand elle se fut retirée, il tourna la tête vers le mur et tout de suite s'endormit. Elle revint à son fauteuil dans le salon et, doucement, elle ferma les yeux. Il ne lui était guère pénible de lutter contre le sommeil, tourmentée qu'elle était par le souci que la Griffoul ne menât quelque jour une mauvaise conduite. Quel dommage ! Après tout, il était un brave homme qui jamais n'avait fait de mal à qui que ce fût. Mais voilà, il avait la faiblesse de s'abandonner, surtout quand des courtisans railleurs l'y poussaient à de grands rêves. Hélène, malgré sa résistance, s'assoupissait entre les bras du fauteuil lorsqu'un fracas subit tomba sur la maison paisible la voix de l'Angélus qui se mit à sonner le chant souriant et grave du réveil et de la prière. À cette voix tant de fois séculaire qui rayonnait jusqu'aux campagnes encore voilées de brume, La vie se ranima dans les rues où roulaient les charrettes cahotantes chargées des richesses de la terre. Jamais Hélène n'avait, dans le frémissement de l'aube, assisté au travail pittoresque des jardiniers répartissant leurs corbeilles sur les carreaux de la halle, ainsi que des bouchers et des crémiers installant à leurs places respectives les pesants comptoirs et les billots. C'était partout un bourdonnement de ruches, entrecoupé de rires, de cris d'appel, d'inutiles bavardages en patois. Autour de la halle, sur le toit puissant dont commençaient à luire les toiles multicolores, les hirondelles, en jetant leurs cris perlés, s'envolèrent par folles arabesques vers la rue, et les pigeons battirent violemment de leurs ailes, cheminèrent par couples, en échangeant des salures aux couleurs. Qu'il était donc amusant, le renouveau du jour au sein de la vieille ville. Hélène s'approcha de la fenêtre pour l'observer à son aise, mais sans ouvrir les persiennes, de crainte d'être surprise debout à une heure aussi matinale. La fraîcheur de l'air la saisit d'une bienfaisante caresse, et elle fut de bonne humeur tout à fait. Dire pourtant que là, d'un bout à l'autre de la place, on allait bientôt s'occuper de son mari, clavauder à propos de la fredaine de cette nuit. Bah, le monde du Sclat n'était pas méchant, il prenait tout à la rigolade, ou presque tout. D'ailleurs, elle se promettait bien de tenir tête aux médisances des grincheux, qui s'indignent si facilement aux dépens de leurs prochains, sans voir leurs propres défauts. Des ménagères, des bonnes, arrivaient, de vastes paniers aux bras, sur la place, parmi les éventaires. Puis des revendeurs de la banlieue, qui goguenardaient à l'ancienne mode, en se tapant sur l'épaule, vieux camarades qui, une minute après, au cours d'interminables marchandages, se disputaient. Les chiens errants qui, la nuit, dorment au bord des ruisseaux ou dans des coins d'impasse, flairaient prudemment les comptoirs de la viande et ceux du fromage, les corbeilles de légumes, et parfois, à cause de la pâture, ils grommelaient entre eux et, en aboyant, se cherchaient des querelles. Pincel, patois de pinceau, qui s'appelait en réalité Combescure, avait beaucoup de difficultés, au milieu d'un tel remue-ménage, à guider les deux mules de son immense char de sarment, qui se balançait comme une gondole, et il avait beau claquer de son fouet, la foule ne s'écartait pas vite, ce qui provoquait une bataille de quolibets et de rires. Allons, la ville reprenait dans la joie son train-train familier. Hélène ferma sa fenêtre. Elle s'en fut sur la pointe des pieds s'informer de l'état de son mari. Le pauvre dormait comme une souche. Tout à l'heure, devant elle, il paraissait bien malheureux et fuyant son regard. Certainement, il serait désormais plus raisonnable et plus docile. Dans la cuisine, elle trouva Ursule à l'ouvrage déjà. « Monsieur est rentré, Ursule. »«
Je l'ai bien compris, madame. Et donc, qu'était-il arrivé ?»
« Oh, rien. Des amis qui l'ont retenu au cercle. Que voulez-vous? Personne n'est parfait. » Hélène, à la minute précise de tous les jours, ouvrit le magasin. Avec les trois employés qui, depuis un moment, attendaient devant la porte, entrèrent des ménagères de la banlieue et des femmes de jardiniers empressées de leurs emplettes de lingerie. Hélène constata tout de suite qu'elles avaient une mine indifférente. C'est qu'en ville, on ne soupçonnait rien encore de la fredaine de la Griffoule. Mais PKR, la nouvelle s'en ébruita bientôt. Le docteur Alingry, en faisant ses visites, la raconta sans malice pour l'unique plaisir de créer autour de ses malades une atmosphère d'insouciance, de gaieté. Seulement, à chacune de ses visites, il développait son récit davantage.